Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean Roulet.
Bonjour et bienvenue sur l'agenda littéraire de Canal Academy. De Christian de Duve aux éditions Odile Jacob, Génétique du péché originel. La planète a peur, non d'un astéroïde tel que celui qui anéantit les dinosaures, non plus du ciel, elle a peur d'elle-même. À mal gérer son lieu de vie, l'homme s'expose à le rendre invivable. Relayé par les médias, l'avènement de la conscience écologique laisse entrevoir des scénarios redoutables. Le plus inquiétant est que nombre de scientifiques partagent cette crainte et multiplient les mises en garde. Les moins pessimistes, ceux qui refusent le catastrophisme climatique, se reconnaissent au moins préoccupés par le problème de l'eau et la gestion des ressources naturelles. Et si nous risquions de détruire ce qu'il nous reste d'un paradis terrestre ? Il y a là une parenté avec le récit biblique. Elle a fait s'interroger Christian de Duve. Pour ce prix Nobel de médecine, si la découverte de l'évolution a définitivement invalidé le texte des auteurs sacrés, le mythe d'Adam et Ève n'en reste pas moins porteur d'une surprenante intuition. Ce serait bien à l'origine de la vie qu'il faudrait remonter pour découvrir la faille qui menace aujourd'hui l'humanité. Elle est d'ordre génétique. Elle serait donc héréditaire, notons-le, tout comme peut l'être le péché originel pour toute une théologie occidentale. Simplement, il ne s'agit plus de péché. Christian de Duve analyse en biologiste selon quel mécanisme cette faille fatale a pu s'inscrire dans nos gènes. Une longue histoire, nous dit-il, qui est celle de l'évolution. Une cause profonde qui est à rechercher dans la sélection naturelle. Moteur de l'évolution, la sélection naturelle a gouverné l'histoire de la vie. Histoire dont Christian de Duve nous fait le récit, nous décrit les processus. C'est donc d'abord à une lumineuse leçon de biologie qu'il nous convie, afin de pouvoir le suivre dans les tenants et les aboutissants de sa thèse. L'histoire de la vie a été reconstituée à partir des traces fossiles que l'on retrouve dans les structures géologiques. Il est donc possible de les dater. La vie est apparue il y a au minimum 3,55 milliards d'années. Sur ses origines, une seule certitude. La vie a pris naissance en milieu aquatique et, vraisemblablement, dès que l'environnement physico-chimique a été en mesure de l'accueillir. La présence de la lumière solaire en tant que source énergétique a-t-elle été une condition obligée ? Certains le pensent, tandis que d'autres imaginent que la vie ait pu prendre source en d'obscures profondeurs. Toujours est-il qu'un apport énergétique était requis pour entretenir le métabolisme, c'est-à-dire la vitalité de la cellule. Christian de Duve se range à l'idée que la vie ait pu surgir dans la marmite d'un environnement volcanique, là où elle disposait des composés qui lui sont nécessaires. Ce qui paraît certain, une fois posée la nature chimique des premières étapes, c'est que des conditions environnementales étaient nécessaires, comme pour tout processus chimique. Nous ne les connaissons pas, nous ne pouvons qu'en soupçonner certaines. Si nous connaissions les conditions initiales, si nous étions en mesure de les reproduire, alors synthétiser la vie nous deviendrait accessible. Telle est l'hypothèse naturaliste adoptée par Christian de Duve. Certains spécialistes se demandent si la biochimie n'est pas trop complexe pour avoir pu dériver de la chimie primitive. Là encore, Christian de Duve témoigne de son naturalisme en optant pour une continuité possible. Apparition de la vie il y a au moins 3 milliards et demi d'années donc. Pendant 2 milliards et demi d'années, elle en est restée au stade unicellulaire. Cette phase microbienne a laissé peu de vestiges fossiles, mais de nombreuses traces dans les structures géologiques et dans l'atmosphère. Un monde invisible, nous dit Christian de Duve, dont il nous esquisse le développement et le parcours évolutif. Les micro-organismes se sont vite partagés en deux catégories, selon qu'ils possédaient ou non un noyau. Aujourd'hui encore, ils sont parmi nous. Redoutables, inoffensifs ou utiles, nous les retrouvons partout. De nombreux phénomènes attestent de leur présence active. On peut citer en vrac les maladies infectieuses, mais aussi la fermentation des fromages ou des boissons alcoolisées, ou encore la formation de certains gaz à effet de serre. Duduve nous signale deux classes de bactéries particulièrement fascinantes, les méthanogènes et les extrémophiles. Les méthanogènes sont présents là où il n'y a pas d'oxygène, dans les vases marécageuses notamment, ce qui explique les bulles et les feux follets à la surface des eaux stagnantes, ou encore dans le système digestif des ruminants. N'a-t-on pas accusé récemment le bétail d'être un agent du réchauffement climatique ? Quant aux extrémophiles, ce sont des bactéries qui méritent bien leur nom. Elles sont capables de survivre dans des conditions physiques ou chimiques extrêmes. Les végétaux furent les premiers organismes multicellulaires à envahir la terre ferme. Seuls à pouvoir subsister sans la présence d'autres êtres vivants, ils ont ouvert la voie. N'ayant d'abord été que de simples algues marines, leurs variétés côtières ont dû s'adapter aux marées basses qui leur imposaient un changement de milieu. Ils ont développé des stratégies leur permettant de canaliser en hauteur l'eau et les éléments minéraux qu'ils extrayaient de la terre. Une propriété qui a persisté tout au long de leur évolution. Même origine marine chez les animaux, mais leur évolution allait s'accorder à d'autres contraintes de la fonction alimentaire. Nous apprenons comment cette fonction a dû se centraliser, comment elle fut dans l'obligation de desservir des cellules trop éloignées pour être alimentées par simple contact et sécrétion locale d'enzymes, comment elle a dû développer des réseaux internes de circulation. Aliments ou oxygène, on livre à domicile. S'élabore de même l'évacuation des déchets. Autre évolution, les animaux acquièrent la faculté de se déplacer. Ainsi peuvent-ils accéder à leur nourriture, trouver des partenaires sexuels, échapper aux prédateurs. Autant de fonctions qui déterminent l'apparition des neurones. Et cela, nous explique Christian Deduve, pour adapter les réponses motrices aux influx sensoriels. Cette vie animale fut inaugurée par les invertébrés marins. La segmentation des corps a ensuite ouvert la voie aux vertébrés. Puis, tout comme les végétaux, les animaux se sont affranchis du milieu marin. Plusieurs lignées animales investissent les terres. Nouvelles contraintes, nouveaux défis, nouvelles solutions imaginées par l'évolution. Il s'ensuit des acquisitions importantes, ne serait-ce que la faculté d'extraire l'oxygène de l'air plutôt que de l'eau. La survivance d'animaux amphibiens, qui sont apparus il y a environ 400 millions d'années, témoigne encore de cette transition. Nous apprenons aussi comment les dinosaures allaient donner naissance aux oiseaux et aux mammifères. Certains dinosaures étaient déjà recouverts de plumes. Elles leur ont d'abord servi à se protéger du froid, puis à planer, puis à voler. Toutes ces évolutions sont étroitement liées au mécanisme de la vie. Christian Deduve nous en parle. Il traite notamment du métabolisme, de la reproduction et de la sélection naturelle. Le métabolisme assure le remplacement des cellules mortes ou endommagées. Il capte les aliments extérieurs, puis, en une cascade de réactions, il les transforme en éléments assimilables par la cellule. Tout se passe comme dans une usine chimique, sans laisser de place au hasard donc. Mais en une seule phase qui mobilise un très grand nombre de catalyseurs spécifiques. La reproduction a débuté par la réplication moléculaire. L'auteur nous l'explique. Chaque cellule d'un même organisme recèle en son noyau une même molécule appelée ADN, N comme noyau. Cet ADN est une séquence moléculaire porteuse d'informations. Elle va permettre à la cellule de se reproduire sur le même modèle, à quelques aléas de transcription près. La vie fut donc la première à utiliser la représentation des connaissances chère aux sciences cognitives. Une représentation qui s'apparente ici à l'écriture avec un alphabet de 4 lettres. 4 lettres capables de coder une information très riche et très complexe en jouant sur la longueur de la séquence moléculaire appelée génome. La structure de l'ADN est telle que la réplication du génome ne s'effectue pas par copie directe, elle passe par un mécanisme de transcription. Bien que très fiable, vu la longueur du modèle à transcrire, ce mécanisme n'est pas à l'abri de quelques erreurs. Il introduit du même coup une diversité de variantes génétiques. On parle alors de mutations. On peut considérer ces erreurs comme le fait du hasard. Mais ce n'est pas par hasard qu'elles seront ou non retenues par la sélection naturelle qui finit toujours par favoriser les variantes les mieux adaptées, les plus aptes à s'accommoder du milieu et à s'y reproduire. Et c'est là que tout se joue, sur des échelles de temps possiblement très grandes, et selon le principe de la lutte pour la vie théorisé par Malthus. Ce que De Duve résume ainsi, la sélection naturelle laisse la lutte pour la vie choisir passivement parmi la diversité créée par les imperfections de l'hérédité. C'est ainsi que la lutte pour la vie gouverne l'évolution. Autre résultat important, les caractères acquis au cours de l'existence n'altèrent pas le génome et ne peuvent donc pas se transmettre. La transmission se joue en amont de cet acquis. La reproduction des êtres multicellulaires passe par une cellule mère unique. Par division et différenciation, cette cellule mère va donner naissance à toutes les cellules spécialisées qui assurent une fonction particulière de l'organisme, par exemple les cellules du foie ou les cellules nerveuses que sont les neurones. Il existe parallèlement un autre schéma qui intervient dans des mécanismes importants, comme dans la production des précieuses cellules souches au niveau de la moelle osseuse. La division cellulaire donne alors une cellule différenciée et une cellule non différenciée, utilisable à des fins thérapeutiques. La cellule mère des êtres multicellulaires est issue de deux cellules parentales par reproduction sexuée. Une cellule mâle et une cellule femelle vont alors fusionner pour donner naissance à un nouvel organisme. Et cela sans le doublement des chromosomes, ces petits bâtonnets contenant les molécules d'ADN et constituant le génome d'une cellule. Schéma complexe, véritable laboratoire de l'évolution, nous dit Christian De Duve, car une nouvelle combinaison de gènes est mise à l'épreuve. Elle peut constituer un atout vital lorsque l'innovation génétique devient une condition cruciale de survie, nous dit encore l'auteur. C'est ainsi que la reproduction sexuée va soumettre à la sélection naturelle d'innombrables variantes génétiques. Cette histoire de la vie sur Terre en vient à son ultime étape, la passionnante aventure humaine. Même si l'évolution est sans doute loin d'être finie, elle est déjà marquée par le succès démesuré de notre espèce, souligne l'auteur. J'en arrive, nous dit-il, au thème central de l'ouvrage, le péché originel, c'est-à-dire la faille génétique que, selon lui, la sélection naturelle a imprimée dans la nature humaine. Une propension à privilégier le bénéfice immédiat au détriment d'une gestion à long terme. L'auteur s'appliquera enfin à passer en revue les scénarios de nature à corriger ou du moins à minimiser ce défaut. Car, nous dit-il, la rédemption ne viendra pas du ciel, elle ne peut venir que de nous. C'est ce que nous verrons dans la suite de cet exposé consacré à l'ouvrage de Christian De Duve, « Génétique du péché originel », publié aux éditions Odile Jacob. Merci de votre écoute et à bientôt pour une prochaine émission sur l'antenne de Canal Académie.